Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Le rééquilibrage fiscal en faveur des moins riches a-t-il vraiment eu lieu? Une étude publiée hier par l'OFCE sur la période 2018-2020 relance le débat. Deux façons de voir les choses, l'une politique, l'autre méthodologique.
Oui, et tout d'abord la polémique du président des riches qui ressurgit à l'occasion de cette étude sur l'impact des politiques fiscales macroniennes post-gilets jaunes. Étude qui montre que les baisses d'impôts ont moins bénéficié aux plus pauvres qu'aux classes plus aisées, dit l'OFCE. L'OFCE, qui souligne que même 2/3 d'entre eux ont perdu en revenus, alors qu'au contraire, 1/4 de ces fameux 17 milliards en tout de baisses d'impôts a bénéficié aux ménages les plus fortunés. Vraie disproportion donc, alors qu'après les premières mesures sur les hauts revenus de 2017, le rééquilibrage fiscal était attendu. Président donc des ultra-riches, commente un député La France Insoumise, mais cette évaluation est au moins la troisième indépendante depuis l'automne dernier, et si toutes ne montrent pas les mêmes disproportions, eh bien les classes moyennes et supérieures sont effectivement les principales bénéficiaires de ces mesures, particulièrement les actifs. Alors s'agit-il vraiment d'un cadeau électoral, plutôt un pari, explique l'économiste et professeur à Marseille Alain Tranois.
Si on regarde en pourcentage du pouvoir d'achat initial, pour une, disons, à peu près 2/3 des Français, ça représente entre 1,5 et 2,5% de gain de pouvoir d'achat. Donc c'est pas si déséquilibré, mais par contre c'est vrai que sur le premier tiers, sur le tiers des Français les plus pauvres, les plus défavorisés, les avantages sont moins manifestes. En fait, si on ajoute les dispositifs les uns aux autres, on voit que les seules mesures qui ont concerné le bas de la distribution, c'est l'augmentation du minimum vieillesse et l'augmentation de l'AAH, de l'allocation pour les adultes handicapés. Donc ça tient, je crois, une volonté dans le discours et dans les faits de privilégier les actifs, la classe moyenne supérieure. Et si on regarde effectivement l'électorat d'Emmanuel Macron, ceux qui ont voté préférentiellement un peu plus pour lui en 2017, mais ce que je voudrais signaler, c'est que dans cette politique qui favorise l'activité par rapport à la non-activité, clairement, le gouvernement en attend un retour vers l'emploi. S'agissant de l'ISF et de la flat tax, c'est quand même quelque part à éviter que les Français les plus riches partent à l'étranger, à ce qu'ils investissent en France, à ce que la création d'entreprises reparte, ce qui est le cas. Donc ça ne sera que, je dirais, en 2022 qu'on verra si toute cette politique qui a sa cohérence a permis non seulement de créer des emplois et in fine, c'est quand même quelque chose d'important je crois pour tous les Français, de réduire le taux de pauvreté.
Le gouvernement aussi avait produit sa propre étude et le ministère de l'économie parle de désaccord méthodologique.
Oui, c'était une étude qui était en annexe du budget. Le gouvernement qui affirmait au contraire que le pouvoir d'achat des moins aisés avait augmenté jusqu'à 2020 et qu'il augmenterait de plus de 2% encore plus que pour les plus riches. Donc la différence tient en fait à la prise en compte ou non de certaines mesures, dont beaucoup sont incitatives, comme la hausse du prix du tabac, qui n'atteint en fait le pouvoir d'achat que si le fumeur reste à consommation constante. L'OFCE n'en tient pas compte dans sa photographie, dit Alain Tranois, alors qu'il faudrait peut-être voir le film, c'est-à-dire l'économie dans sa dynamique, à suivre donc d'ici 2022.
On passe au bref avec le feuilleton d'Engie et le suspense. C'est cet après-midi que le conseil d'administration du groupe se réunit pour décider du sort de sa présidente et donner des éclaircissements.
A eu pour l'instant la parole encore une fois aux politiques pour couper court aux interrogations et critiques sur les relations tendues entre dirigeants d'Engie ou sur la vente d'une partie de l'entreprise par l'État qui en possède 26%. Bruno Le Maire démentait ce matin. Son président Jean-Pierre Clamadieu, en lutte contre la directrice Isabelle Kocher, n'aura jamais son poste et celui d'Isabelle Clamadieu et il n'y a pas de volonté du gouvernement de vendre ses parts. Pour l'instant, tout le monde s'accuse en tout cas d'affaiblir le champion gazier, comme disait Bruno Le Maire, et du renouvelable français. Quant à l'action d'Engie, après s'être reprise de sa chute du week-end, elle frémit et s'effrite de nouveau depuis ce midi.
Et pour finir, le feuilleton boursier et peut-être la fin du suspense. Le coronavirus, la coronavirusophobie n'atteint finalement pas les marchés mondiaux.
Et oui, pardon, Stéphane, c'est difficile. Après le plongeon des cours de la semaine dernière, les injections de liquidités de la Banque Centrale Chinoise semblent avoir rassuré les marchés. Toutes les places semblent se reprendre aussi, de manière spectaculaire pour New York avec un troisième jour de hausse consécutif, mais aussi pour l'Europe. L'inquiétude d'une extension à l'est chinois du coronavirus semble être un peu retombée, peut-être parce que malgré la hausse du nombre de décès, la mortalité encore n'excède pas 2%, peut-être aussi à cause des rumeurs hier de traitements trouvés à Wuhan, démentis par l'OMS.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'Écho.